des réactions par rapport au...
C'est un autre registre.
Ah, ça, c'est clairement un autre registre, oui. D'autres remarques par rapport à ce film? Oui.
Moi, il donne l'impression qu'il y aurait quand même un trop gros travail sur les représentations. Trop gros.
Ouais, trop gros. Ouais. Donc un très gros travail, voire trop gros. On va en reparler. J'espère que je vous donnerai effectivement des petites pistes pour... Mais c'est quelque chose effectivement qui interroge les représentations, à la fois dans l'espace et dans le temps, d'une autre culture et puis aussi d'une autre époque. Oui, vous avez tout à fait raison. D'autres remarques, c'est important ce que vous dites, surtout les choses, j'irais, qui grincent peut-être par rapport à ce... Allez-y. Oui, tout à fait. Donc, et ça, la famille, même si cette représentation est très datée et puis là encore dans un espace, une autre culture, c'est quelque chose, une préoccupation en tout cas qui est toujours d'actualité pour les enfants, bien sûr, et quelque chose de fondamental pour eux. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite et puis n'hésitez pas à intervenir. 2009, la sortie de Panda, Petit Panda en France. Vous voyez l'œuvre de jeunesse de Miyazaki et Takahata. Il est fort à parier que cette œuvre ne serait jamais venue sur nos écrans, si ça n'avait pas été l'œuvre de ces deux grands monstres sacrés donc du cinéma d'animation. Peut-être une première chose, on est parti d'une carte géographique pour Inukshuk, là aussi, de montrer... que c'est un film qui a été fait donc en Asie, au Japon, pour bien mettre le Japon par rapport à l'Europe et puis parler avec les enfants justement de ce décalage de culture qu'on peut interroger en tout cas. Et il est sorti en 1972 donc au Japon. Donc, il a fallu 37 ans avant qu'il n'arrive en France. Et il est sorti en même temps, c'était le même programme que les enfants allaient voir, d'un Godzilla. Donc là aussi, ça, je trouve que j'avais envie de vous mettre ces deux affiches côte à côte pour s'interroger par rapport à qu'est-ce qu'on montre en fonction des cultures aux enfants. Double programme. Et il a été fait donc par Miyazaki et Takahata et par notamment des jeunes pères, ils étaient jeunes à cette époque-là, qui voulaient montrer un film à leurs enfants, puisque c'est vraiment clairement dans cette intention-là. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de ces deux grands réalisateurs qui ont commencé à travailler ensemble très tôt, puisque leur premier film en commun, c'était Horus, Prince du Soleil, qui a été fait donc avec le studio Toei Animation. Et Takahata était le réalisateur et Miyazaki donc a été embauché par Takahata pour être notamment directeur de l'animation. Et puis aussi, c'est lui qui, ce qu'on appelle le concept artiste, qui a fait les dessins pour donner une identité graphique donc au personnage. Ce film n'a pas eu du succès, en tout cas au moment de sa sortie, même si maintenant c'est devenu un film important du patrimoine. Donc ils ont quitté la Toei Animation, qui ne leur faisait plus confiance, pour ensuite travailler dans des productions pour la télévision. Et notamment, il y a eu la fameuse Heidi dont vous avez parlé, qui lui a eu un succès énorme, non seulement au Japon, mais aussi à l'international, puisqu'il a été traduit dans au moins 20 langues, 20 pays. Est-ce que vous êtes nombreuses à avoir des souvenirs donc de ce film-là? Oui. Oui, passer à la télévision, c'est vraiment un film d'animation, effectivement. Enfin, un film d'animation, une série télévisée, oui. Avec une chanson que... Les chansons sont très importantes dans les films de Takahata et Miyazaki. Là, vous l'avez vu déjà, la petite ritournelle de Panda, Petit Panda, mais il y avait aussi une chanson donc pour Heidi. Et Heidi, c'est vrai qu'il y avait tant sur le fond que sur la forme. Alors après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais une qualité qui était supérieure, je dirais, aux standards des séries télévisées de l'époque. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'ils avaient comme idée, donc dans le studio, pour faire une autre série, d'adapter l'album de l'auteure suédoise, donc Astrid Lindgren, Fifi Brin d'Acier. Et ils ont commencé donc à, là encore, à faire des dessins pour réfléchir sur comment ils allaient donc adapter cette petite héroïne. Est-ce que vous la connaissez, Fifi Brin d'Acier ? Là aussi, ça date peut-être un petit peu. C'est vraiment une héroïne qui vit toute seule, qui est très indépendante, qui vit donc avec un cheval et puis alors je ne sais plus si c'est un singe. Je crois, oui, c'est un singe avec qui elle vit de façon donc très autonome. Et elle aussi, elle a une énergie assez, assez incroyable. Et le souci pour Takahata et Miyazaki, c'est que Astrid Lindgren, en fait, a refusé son accord pour que ses romans soient adaptés donc en série télévisée. Elle avait eu déjà une expérience assez négative d'une précédente adaptation. Donc le projet s'est arrêté parce que la romancière a refusé donc cette adaptation. Donc Takahata et Miyazaki ont réfléchi comment ils pourraient utiliser quand même toutes leurs recherches, mais avec un total autre projet. Et je pense que vous avez tout à fait repéré que Mimiko, elle a des traits de caractère donc de Fifi Brin d'Acier, d'un point de vue donc de l'esthétisme, de ses petites tresses, ses cheveux roux, mais aussi au niveau de son tempérament et de sa joie de vivre et son dynamisme qu'elle incarne. Alors, ils ont proposé donc au directeur du studio ce projet-là, qui n'a pas été retenu, qui est parti donc dans les tiroirs du studio. Sauf qu'il y a eu un événement national au Japon à cette époque-là qui a permis de ressortir ce projet donc des tiroirs. C'est la diplomatie entre le Japon et la Chine, la relation diplomatique donc entre ces deux pays a été, repris après un long moment donc de froid entre les deux pays. Et la Chine a donné au Japon un couple de pandas, le panda étant un animal quasi inconnu donc au Japon. Et ce couple donc de pandas s'est installé au zoo de Tokyo et il y a eu une véritable pandamania, c'est-à-dire il y a eu des millions de visiteurs pour aller voir donc ce couple de pandas. Et là, le studio s'est rappelé donc du projet de Miyazaki et de Takahata qui s'est dit, là, on a un film qui est pratiquement... le scénario, on a déjà la recherche graphique, on peut le faire de façon très, très rapide. Donc, ils se sont mis très, très rapidement au travail. Et vous voyez que le couple de pandas est arrivé en 72 et le film est sorti en 72. Donc, ça a été très, très rapide. Et je pense... Alors là, la qualité de l'image, elle était vraiment pas terrible. Là, donc, vous aurez mieux... lorsque vous allez venir, mais on est dans ce qu'on appelle l'animation limitée, c'est-à-dire qu'une animation à l'économie, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc là, cette foule que l'on voit lors de Papa Panda, c'est clairement là aussi comme un documentaire sur ce qui s'était passé donc, au Japon à cette période-là. Alors peut-être juste un tout petit mot sur le studio Ghibli. Est-ce qu'on a des fans dans la salle du studio Ghibli ? Oui. Donc il a été créé lui en 1985 et justement en réaction à cette animation limitée qui était vraiment à l'économie. Eux, ils ont voulu créer donc un studio indépendant et travailler une animation donc de qualité. Donc il y a Hayao Miyazaki, Isao Takahata et puis la personne qui est au milieu, Toshio Suzuki, qui ont créé donc à trois ce studio. Et en 1986, donc sort donc le château dans le ciel, qui est donc le premier long métrage. Et ce qui est clair, c'est que donc on a un film de 72 après donc le studio Ghibli 1985, c'est que Panda Petit Panda a inspiré donc des moments dans des films qui seront réalisés après donc au studio Ghibli. Et peut-être celui qui est le plus clairement inspiré de Panda Petit Panda, c'est le film culte de Miyazaki, Totoro. Là, je me suis amusée donc, à mettre en relation des photogrammes de Panda Petit Panda et des photogrammes donc, de Totoro, rien que dans le sourire, la force hein, de ce personnage-là, sa grandeur. Là, on voit des relations. Et on peut dire que Mimiko, ensuite, a été, je dirais, divisée en deux, entre les deux petites sœurs donc, de Totoro, entre Mei et puis Tsatsuki. On peut dire que Mimiko, elle a l'innocence de la petite sœur et puis déjà aussi la responsabilité que Mei a en l'absence donc de la maman qui est à l'hôpital donc dans Totoro. Donc c'est vraiment ces deux personnages qui sont nés donc de cette petite héroïne Mimiko.